Bonjour et bienvenue sur mon podcast Place aux Jeunes, un podcast qui donne la parole aux jeunes sur divers sujets sociétaux. Merci d'être présente, Alexandra.
Merci à toi.
Alors tout d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots, nous dire quel âge tu as, en quelle étude tu es et en quelle année aussi tu es.
Eh bien, donc je m'appelle Alexandra, j'ai 20 ans et je suis en études de communication. Je suis en bachelor communication et je suis en troisième année cette année, la dernière année.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces études de communication ?
Bah, je pense qu'il m'a attiré dans ces études dans la com, en fait. C'est tout simple. Ma génération a été complètement baignée dans le YouTube avec Enjoy Phoenix, avec toutes les youtubeuses qu'on a toutes suivies. Et je pense qu'en fait, tout simplement, on est beaucoup de filles et de garçons aussi. Il y a des garçons en com, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. À avoir dit, ah bah, j'ai trop envie de faire ça en fait. Et à découvrir un peu les rouages du métier. Et puis aussi, j'ai commencé la communication dans le domaine associatif. Et en fait, bah, j'ai voulu continuer l'expérience parce que ça me plaisait beaucoup, tout simplement.
Top, t'as suivi ce qui t'allait et ce qui te plaisait.
Voilà.
Et justement, tu parlais des rouages du métier de la communication et c'est ce qu'on va explorer davantage dans ce podcast. Si tu pouvais tout d'abord nous dire quelles compétences, selon toi, sont les plus recherchées dans les années à venir si on met en perspective ce métier de la communication.
Je dirais en premier, c'est la créativité. Parce que malgré que maintenant, l'IA, l'intelligence artificielle, prend une très grande place, je pense qu'il faut quand même cet esprit créatif, il faut toujours cette curiosité, cette envie de chercher, parce que c'est ce qu'on nous demande en études, pardon, de toujours être curieux, de toujours aller chercher plus loin, de pousser, par exemple, quand on nous demande de faire des affiches, quand on nous demande de faire des réalisations, de pousser notre idée au plus loin. C'est surtout la créativité, la curiosité. Après, je dirais peut-être toujours l'envie, parce que c'est sûr que maintenant, l'IA... J'y reviens encore une fois, mais l'IA aujourd'hui, on a beaucoup de communicants qui aujourd'hui, on va pas se mentir, ils deviennent un peu feignants et qui ont envie de plus faire grand-chose. Mais donc, je pense qu'il faut quand même cette envie de bien faire parce que sinon, je pense pas que ça a un grand intérêt d'aller en communication.
D'accord. Et justement, si on voit évoluer les métiers de la communication, on va en parler après, de ces différents métiers, dans les années à venir, par exemple, si on parle dans 10 ans, comment justement tu verrais évoluer ces compétences d'un bon communicant ?
Je dirais peut-être que dans 10 ans, déjà, malheureusement, je pense que certains métiers seraient peut-être supprimés. Parce qu'on va pas se mentir, c'est l'IA maintenant, il y a un sujet central et maintenant l'IA va prendre peut-être la place de certains métiers. Mais je dirais peut-être que certains communicants qui aujourd'hui sont des chefs de pub, des chefs de projet dans les grandes agences de publicité vont peut-être prendre d'autres compétences que maintenant, qu'on nous apprend actuellement en études. Je dirais peut-être un regard un peu plus neuf et le fait que nous, notre génération, soit sensibilisée à ça. Peut-être que ça va donner un nouveau souffle, si je puis dire. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Mais...
Si, c'est vrai. Le concept aussi de s'adapter avec les nouveaux outils.
Oui, bien sûr.
Mmh. Très bien. Donc, on a vu, c'est un métier qui va sans doute supprimer des postes avec l'évolution des outils IA, etc. On va en parler davantage tout de suite. Mais surtout, c'est un métier qui est assez compétitif de par le nombre de personnes qui s'y intéressent et parce que c'est aussi un sujet d'actualité avec le développement des outils, le fait que des grandes entreprises et marques veulent... avoir une authenticité de marque, s'identifier, etc., renforcer leur image de marque, pardon. Comment, toi, tu envisages de te démarquer dans ces secteurs aussi compétitifs ?
Je dirais aussi qu'il faut savoir se démarquer du fait de l'originalité. Parce qu'aujourd'hui, en com, de part, il y a l'influence aussi, on veut faire comme tout le monde. Alors, des fois, c'est bien de faire comme tout le monde, mais pour beaucoup d'entreprises, maintenant, c'est soporifique, en fait. Quand ils reçoivent les CV et quand ils en ont les 30, 50, 150 qui sont tous pareils, ils n'ont plus envie de les lire. Donc, je pense qu'il faut se démarquer du fait de rester quand même original, de rester authentique, parce que ça peut être une grande preuve aussi de ce qu'on est et de se différencier par rapport aux voisins. Je pense déjà, et puis aussi du fait de notre âge, que quand on va arriver sur le métier, on sera plus jeune forcément que les autres communicants, donc on aura peut-être un regard plus neuf sur la société. On a été éduqués différemment peut-être par rapport à nos anciens, donc on peut peut-être apporter un regard neuf aussi, je dirais ça.
D'accord, très bien. Donc là, on peut dire qu'on a un peu balayé le sujet dans le fait des communicants, donc de toi, des compétences que vous pouvez apporter au métier qu'il faut avoir pour faire ce métier, etc. Et maintenant, on va balayer plus largement, en profondeur, ce sujet. Et je vais le faire via une rubrique, j'aime bien faire ça dans mes interviews, des questions en français. Finalement, c'est des questions que se posent tous les Français sur ces métiers-ci. Et la première étant, quels sont les différents métiers de communication ?
Ok. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu épineuse puisqu'il y en a beaucoup. Alors les métiers de la communication, bah, ça passe de la publicité avec le chef de projet au niveau de la publicité, le directeur marketing. On peut parler aussi de concepteurs ou de conceptrices, rédactrices, ceux par exemple qui font tous les contenus sur les sites internet, on peut appeler ça des rédacteurs. Après, on a les chargés de communication, aussi le community management qui aujourd'hui prend une énorme place. Il y en a tellement que je pense que je ne pourrais pas tous les citer, qu'il y a aussi, oui, les directeurs marketing, ceux qui réalisent les études de marché. Globalement, c'est ça. Mais la communication, c'est un métier qui est tellement large. Il y a tellement de métiers qu'on ne pourrait même pas tous les citer. Et qu'aujourd'hui, même, de jour en jour, il y a de nouveaux métiers qui se créent. Donc, on est incapable de tous les citer. Puisque même nous, en tant que des fois étudiants en communication ou communicants, des fois, on n'est pas tout souvent à la page. Et donc, des fois, il faut se remettre à la page sur les nouveaux métiers.
Tu l'as dit, il y a différents métiers, de nombreux métiers. Et dans la manière où tu le disais, là, tu le classais en fait en fonction des plateformes. Publicité, réseaux sociaux, sites, marques en tant que telles, en entreprise, etc. Il y a d'autres types peut-être de classements où peut-être qu'on ne s'attend pas à communiquer.
Il y a aussi la communication interne aussi, ce qu'on voit pas souvent. La communication interne, en fait, c'est-à-dire donc communiquer de la bonne manière aux salariés dans l'entreprise. Il y a aussi une communication qu'on ne connaît pas, un peu plus institutionnelle, un petit peu plus politique, pour ceux qui travaillent dans les collectivités, pour ceux qui travaillent, par exemple, puisqu'on est en Bretagne, à la région Bretagne, au département, c'est plus ce côté institutionnel et politique auquel on ne s'attend pas souvent et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais c'est présent et c'est très présent. Et ils ont très souvent des services communication qui sont extrêmement forts.
Pour communiquer sur leur action, c'est qu'on ne connaît pas forcément. Donc, en fait, le métier de la communication, elle s'implante sur tout le territoire, à divers niveaux et dans plusieurs secteurs, finalement. Maintenant, une deuxième question des Français, c'est quel est l'impact de la communication sur l'opinion publique ? Et on en parlait un petit peu.
Je dirais qu'aujourd'hui, l'impact de la com sur l'opinion publique, il est un petit peu à double tranchant. Parce que maintenant, la communication a un impact assez négatif, puisque dans le domaine de la politique, maintenant, les Français, pour le discuter, pour le voir au quotidien, ils prennent maintenant la communication un peu d'un mauvais œil. Et ils trouvent souvent que c'est soporifique, que c'est que du blabla, qu'il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Mais il y en a aussi qui trouvent que ça a du bon et qui trouvent qu'elle est importante. Donc maintenant, c'est cet effet double tranchant. Et que maintenant, on a ce devoir en tant que communicant de dire... Non, c'est pas forcément, on vend pas forcément du bullshit. On vend quelque chose qui est vrai. On vend pas des promesses, attention, mais on essaye de vendre quelque chose qui est vrai et qui est sincère.
D'accord. Très bien répondu sur cet impact. Effectivement, pour davantage compléter, les Français s'interrogent sur le pouvoir de la communication à influencer les comportements et les décisions. Donc, c'est très impactant au niveau, effectivement, du sujet de la politique. Troisième question, comment les métiers de la communication vont-ils évoluer avec l'intelligence artificielle ?
Je dirais à mon sens que malheureusement, il y a certains métiers de la communication qui vont être supprimés, puisque je pense qu'il y a de très fortes chances qu'ils soient supprimés. Je ne vais pas non plus être totalement négatif, mais forcément que maintenant avec l'IA, on peut réussir à faire des campagnes de communication, des designs, donc forcément des métiers comme plus des créatifs, ceux qu'on ne connaît pas forcément, les graphistes. Ce sera plus des métiers qui vont peut-être aller un peu plus au placard pour laisser place à de nouveaux métiers, peut-être un community management un peu plus poussé, peut-être, je saurais pas trop répondre, mais parce que même moi, je pense que j'ai pas forcément la réponse à la question, mais je dirais un community management plus poussé dans les années à venir, peut-être avec de nouvelles compétences.
Donc, un avis plutôt mitigé pour toi.
C'est ça.
Et qui fait lien avec ma prochaine question, si effectivement cette fameuse thématique de l'IA de nos jours est-elle foncièrement une menace ou une opportunité finalement pour les métiers de la communication ?
Je dirais que c'est une menace et une opportunité. Parce que ça peut, c'est une opportunité aujourd'hui, parce qu'on arrive à faire des choses. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire une campagne de communication en moins de 15 minutes. Ce qui est quand même un énorme gain de temps pour les communicants, mais aussi c'est une menace puisque on va pas se mentir, avec l'IA on fait plus l'effort de réfléchir. Donc aujourd'hui en fait on est tellement habitué à demander à ChatGPT qu'on fait même plus l'effort nous-mêmes de réfléchir. Donc c'est plus une menace pour nous, pour notre boulot, de dire qu'en fait qu'on est tout notre boulot est lié à l'ordinateur, à ChatGPT, à Midjourney. Mais aussi c'est une menace dans le fait que forcément, on va laisser beaucoup de personnes au placard et donc il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se retrouver sur le carreau à cause de l'IA.
Tu l'as dit très simplement et je te rejoins sur cette question justement. L'IA va un peu perturber notre manière de communiquer pour les communicants, pour ceux qui communiquent. Mais justement, quelles sont ces compétences que l'IA ne pourra jamais remplacer pour les communicants, en faisant parallèle justement à ce qu'on a dit en début d'interview?
Je pense que les compétences que l'IA pourra jamais remplacer, déjà, c'est la créativité. Puisque même si ChatGPT aujourd'hui fait de très, très bons progrès, il y a toujours la créativité humaine qui prend le dessus. Et que la créativité que nous, on a en tant qu'humains, je pense que l'IA ne pourra jamais l'enlever. Après, il faut aussi, je pense, une compétence qu'on gardera toujours, c'est le discernement. Que certes, l'IA, c'est super bien, ça nous fait gagner du temps, mais il ne faut pas non plus croire tout ce qu'elle dit. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Aujourd'hui, il y a des IA qu'il faut faire attention, qui disent complètement n'importe quoi. Donc, je dirais qu'il faut les compétences qu'on garde, c'est surtout la créativité, le discernement, et peut-être justement cette curiosité, comme je disais avant, cette envie d'aller plus loin, de toujours vouloir plus. Je pense que c'est surtout ça.
D'accord. Et dans un autre parallèle, si on prend l'IA comme un outil, comment... toi, au sein, par exemple, de ta formation, tu intègres cette nouvelle technologie?
Moi, au sein de ma formation, on l'utilise tous les jours. Il faut être honnête, parce qu'on apprend aussi à s'en servir, mais on apprend à s'en servir de la bonne manière, puisque aujourd'hui, on commence tout juste à avoir des cours sur l'intelligence artificielle et apprendre à s'en servir à la bonne manière. Mais je dirais qu'on apprend l'IA plus dans le sens à faire, par exemple, j'ai des cours de presse, on apprend à faire des communiqués de presse avec l'intelligence artificielle. Par exemple, on apprend justement à faire des campagnes de communication justement avec l'IA, mais c'est plus ce côté de montrer que l'IA peut nous faire une campagne de communication, mais elle ne peut pas forcément être aussi complète que si c'était nous qui l'avions faite. C'est plus dans ce sens-là. Mais je l'utilise aussi dans mon travail, dans mon alternance. Je l'utilise au quotidien.
En faisant quoi, par exemple ?
En faisant, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Je fais beaucoup d'articles pour un site en collaboration avec Ouest France. Et donc, on réalise tous nos articles quasiment avec l'IA. Alors, bien sûr, ils sont aujourd'hui retravaillés. On change aussi les mots de l'article parce qu'on ne va pas forcément mettre sur Ouest France un article qui est complètement fait avec l'IA. Je pense que ça, c'est pas forcément très éthique. Mais oui, moi, en tant que communicante, j'utilise énormément l'IA.
Ok, très bien. Et justement, une question qui me vient, tu l'as dit que tu venais justement d'avoir en troisième année des cours sur l'IA. C'est des professionnels de l'IA qui viennent t'apprendre comment manier cet outil. Est-ce que c'est des profs qui ont été formés très récemment? Parce que c'est vraiment un domaine, un sujet qui est d'actualité, mais très récente.
Alors, moi, dans mon école, ils essayent, ils sont un petit peu aussi perdus que nous, donc ils prennent un peu le train en marche. C'est des professionnels de la communication qui nous donnent cours, qui viennent tout juste d'être formés à l'IA. ils sont pas encore, ils savent pas forcément encore tout ce que l'IA peut en réserve et tous les paramètres de l'IA. Donc je pense aussi que c'est de la formation compte-gouttes, puisque l'IA évolue de jour en jour, donc je pense qu'on ne sera jamais forcément des professionnels formés à 100%. Mais généralement, moi, dans mon cas, le professeur qui nous fait cours, c'est un ancien directeur d'agence de communication qui a été formé à l'IA il y a 6 mois. Voilà. C'est très récent.
Ok, très bien. Maintenant, on va parler plutôt de... On a parlé justement du marché compétitif lié aux métiers de la communication, qui sont très larges, qui bougent, qui sont bousculés par les nouvelles technologies. Et j'aimerais bien aborder le sujet de recherche de stage, qui est un sujet vraiment inhérent à tous les étudiants en formation qui souhaitent trouver un stage soit de fin d'études, donc qui sont vraiment pour concrétiser leurs études et leurs diplômes, ou pour un stage d'observation, etc. Donc, as-tu, toi... d'abord, rencontrer des difficultés à trouver un stage.
Oui, énormément. J'ai galéré, j'ai tout fait. Je pense que sur la page Agence Communication sur Google, Agence Communication Rennes, je pense que cette page doit la connaître par cœur. Mais oui, j'ai eu des difficultés. J'ai eu des refus aussi, avec des raisons qui étaient un peu, des fois un petit peu bancales. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que plus on galère, plus on trouvera un stage qui nous correspond à 100%. Parce que pour l'avoir vécu avec des étudiants qui trouvaient des fois leur stage du premier coup, c'était pas forcément le stage 100% qu'ils rêvaient, ou en fait ils se rendent compte que c'est pas du tout ça qui était au début le stage proposé. Et donc généralement, pour moi, je me dis que plus je galère, plus que ce que j'aurai me correspondra et sera mieux.
Très bien. Et justement, si on sort un peu de ça et qu'on se demande quelles sont finalement les autres alternatives possibles pour acquérir de l'expérience à la place des stages traditionnels qui sont soit demandés, soit par une volonté personnelle, est-ce que tu as des idées ?
Alors, moi, je dirais de façon gratuite, ce serait le bénévolat. Déjà, parce que ça, je pense que toute école de communication le dira, mais le bénévolat, je pense que c'est la chose la plus importante et qui va te permettre d'acquérir de l'expérience et de savoir ce que tu es capable de faire ou ce que tu n'es pas capable de faire. Après, maintenant, il y a le service civique aussi qui est proposé, qui n'est pas proposé partout, mais qui commence un peu à se démocratiser. Et il y a beaucoup maintenant d'entreprises de communication ou alors de clubs sportifs. C'est beaucoup les clubs sportifs qui recherchent des personnes en service civique, les associations. Après, la dernière réponse, forcément, c'est un peu pareil que les stages. Je triche un peu, mais c'est l'alternance. L'alternance, c'est la chose la plus importante pour se faire de l'expérience, puisque généralement, dans 80% des cas, ça peut découler sur un CDI et donc sur un emploi sécurisé. Je pense que l'alternance, c'est la chose la plus importante. Et après, pour les personnes qui ne sont pas forcément encore aptes à faire de l'alternance, je dirais le bénévolat.
Très bien, ok. Ça me parle tout ce que tu me dis. Maintenant, j'ai fait un podcast justement sur... on va parler de réseau et de son importance. J'ai fait un podcast sur le sujet. Mm-hmm. J'ai appelé ça « Le réseau, un nouveau sport olympique ». On peut comprendre pourquoi. Est-ce que toi, le développement de ton réseau professionnel te semble si important dans ton secteur ?
Alors oui, pour moi, le réseau, ça a son importance, clairement. Puisque, par exemple, le réseau LinkedIn peut avoir son importance, puisque certaines personnes mettent des annonces, des fois sur LinkedIn, des annonces de poste, ou des fois c'est juste quelques jours en disant voilà, je cherche quelqu'un, j'ai un besoin. Et donc, forcément, si tu n'es pas abonné à la personne, tu ne l'as pas forcément. Moi, j'ai eu dans mon expérience que le réseau a son importance, puisque j'ai eu un poste grâce à mon réseau, à une ancienne expérience de boulot que j'avais faite, et donc aujourd'hui qui a découlé sur un emploi. Donc, pour moi, le réseau a son importance, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir bien le faire. Il ne faut pas demander à n'importe qui, puisqu'il y a des personnes que tu crois qui vont être dans ton réseau et qui, en fait, ils n'en ont absolument rien à faire, et que c'est, en fait, ils veulent juste placer leur fils ou leur fille sur un emploi et ils n'en ont absolument rien à faire de toi. Donc, pour moi, le réseau a son importance, mais il faut apprendre à le faire correctement.
Ok. Et justement, comment on le fait correctement, selon toi ?
Alors, je dirais déjà, pour moi, le numéro un pour le réseau, c'est LinkedIn. Je pense que LinkedIn, aujourd'hui, c'est En tout cas, moi, pour en tant que communicante, aujourd'hui, LinkedIn, ça a son importance. Et donc, bah, par exemple, dans mon cas, j'ai demandé tous les chargés de communication qui sont sur la place de Rennes et sur leurs alentours, puisque bah, si jamais ils quittent leur poste, si jamais il y a une nouveauté, si jamais ils prennent en alternance, au moins, on peut le savoir. Après, dans tes anciennes expériences, moi qui ai déjà fait des stages, et bah, j'ai gardé contact avec tous mes tuteurs, avec toutes mes tutrices, avec toutes mes anciennes collègues, je dirais ça, mais j'ai gardé contact avec des personnes qui je savais, c'est presque horrible à dire, mais qui pourraient me resservir.
Okay.
C'est un peu étrange de dire ça, mais que forcément, ils peuvent avoir un impact, ils peuvent t'aider vers la fin, puisque c'est sûr que dans mon cas, j'ai pas forcément d'intérêt de garder contact avec l'assistante RH. Puisque je suis communicante, ça n'a pas forcément un grand intérêt. C'est, la formulation est peut-être mal dite.
Oui, pour paraphraser, finalement, c'est des personnes qui pourront après peut-être t'aider pour trouver un poste plus tard, pour t'aider à, si tu as une question, répondre, etc., connaître les besoins des entreprises à tel instant, etc. Des personnes qui sont implémentées sur le territoire et qui peuvent t'aider plus tard.
Bien sûr, mais c'est la formulation, oui, ils peuvent nous servir. La formulation est peut-être un petit peu crue, mais c'est comme ça qu'on en parle en communication. Et qu'aussi, à l'inverse, ils parlent de nous comme ça. Donc on dit oui, je veux garder cet étudiant ou cette alternante parce qu'elle peut me servir dans l'avenir.
Ok.
Donc c'est la triste réalité, mais c'est vraiment le cas que pour ton réseau, il faut garder uniquement des gens qui peuvent te servir, des gens qui peuvent t'être bénéfiques.
Ok. Et donc là, tu as parlé plus du réseau physique, mais sur LinkedIn notamment, tu en parlais sur la plateforme. Comment tu faisais pour développer ton réseau professionnel? Quels outils, quelles choses tu mettais en place?
Alors, bah, des fois, moi, pour LinkedIn, je faisais très souvent des demandes de connexion, souvent aux personnes auxquelles j'avais envie, les chargés de communication, à chaque fois, les grandes entreprises, c'est souvent ça, je faisais des demandes de communication, par exemple, des demandes de connexion, ou alors, quand j'étais en recherche de stage, j'envoyais des messages, par exemple, aux alternants, aux stagiaires, en disant « Coucou, je cherche un stage et j'ai besoin d'un coup de main », c'est souvent ça que je faisais. Après, c'est un travail qui est très fatigant, qui est de longue haleine, ça dure plusieurs mois, il faut pas s'y prendre un mois avant, il faut s'y prendre un an avant, 6 mois avant. C'est quelque chose qui est vraiment travaillé, qui est important. Mais ouais, je pense qu'il faut y aller souvent à la spontanéité de dire d'être authentique, d'être naturel, de dire bah voilà, je cherche un stage, j'ai besoin d'aide, ou alors j'aimerais bien vous rencontrer, j'aimerais bien me connecter avec vous dans LinkedIn. C'est souvent ça.
Et si on parle d'un étudiant qui est en recherche de stage, justement, c'est un peu la période en ce moment, en mars, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil numéro 1?
Je dirais qu'il faut, et je dirais que, par exemple, s'il vise une entreprise, je dis n'importe quoi, hein, s'il vise Orange et qu'il veut absolument aller chez Orange, il faut qu'il réussisse par tous les moyens. Souvent, on nous dit, hein, notre directeur qui aime beaucoup nous dire ça, que si tu n'arrives pas à passer par la porte, il faut passer par la fenêtre, il faut passer par la boîte aux lettres, il faut passer par tous les moyens. Que si tu as envie d'aller dans une entreprise, il faut te battre par tous les moyens et que tu vas y arriver. Puisque très souvent, c'est ce que les entreprises, en tout cas dans mon domaine d'activité, quand ils voient qu'on est vraiment passionné, qu'on veut vraiment aller dans cette entreprise, très souvent, ça peut découler sur quelque chose. Donc, je pense qu'il faut toujours écouter ses envies. Après, je dirais qu'il faut être honnête, que ça ne sert à rien de mentir sur son CV. Hein. Parce que les entreprises, elles vont le voir tout de suite et que très souvent, ça peut découler sur un refus ou alors ça peut découler sur un arrêt de stage dans le cas d'un stage, voire même pire, un arrêt d'alternance. Et là, dans notre cas, pour un arrêt d'alternance, ça fait très mal. Mais je dirais, ouais, surtout qu'il faut être honnête. Et si on veut quelque chose, il faut vraiment y aller jusqu'au bout.
Ok. Pour finir cette interview, quels sont tes projets pour l'avenir? Et si on fait le lien avec le début, vers quel métier de la communication tu te penches?
Alors, moi, aujourd'hui, mes projets pour l'avenir, l'année prochaine, je pars sur un master. Je pars sur un master en marketing et en communication. Après, je pense que j'aimerais bien... Je ne dirais pas que j'ai encore un métier qui me fait envie. Je pense que j'ai plusieurs branches de métier qui me font envie. J'aime beaucoup le métier de concepteur-rédacteur. Et j'aime beaucoup le métier de community management. Ça, c'est vraiment mes deux métiers de cœur. Après, j'envisage de passer le concours de la fonction publique pour travailler dans les collectivités, puisque c'est quelque chose aussi, moi, qui m'anime et qui me fait envie. Mais ouais, pour l'instant, c'est compliqué aussi. Nous, on sort, on a beaucoup été encore choyés, encore été un peu dans une cage, un peu dans une prison dorée. On n'est pas encore totalement sûr de nos choix, moi, dans mon cas. Mais je dirais, ouais, que le community management me fait envie, que le concepteur rédacteur, que l'événementiel aussi fait énormément, me fait envie.
Ok. Voilà. Question juste bonus pour en connaître davantage. Selon toi, les métiers de community manager et de concepteur rédacteur, comment ils évolueront d'ici 10 ans, par exemple ? Si tu avais une petite baguette magique que je te donne maintenant, comment tu imaginerais ces métiers-ci ?
Bah, je dirais que le métier de concepteur-rédacteur, il va peut-être évoluer, peut-être en rapidité, comme je disais précédemment avec l'IA, qui aujourd'hui va faire gagner du temps, par exemple, au niveau de la rédaction, au niveau des écrits. Donc, je pense que ça va être un métier qui va peut-être gagner en rapidité, puisque maintenant, c'est un métier qui est intéressant, mais c'est un métier qui peut paraître chronophage pour ceux qui n'aiment pas écrire. Je dirais peut-être que dans 10 ans, ça va peut-être évoluer de manière plus rapide, mais aussi avec une nouvelle manière de rédiger. Peut-être parce qu'aujourd'hui, maintenant, on fait plus attention à certaines choses. Par exemple, je pense à l'écriture inclusive aussi. Aujourd'hui, ça commence tout juste à être un peu démocratisé. Peut-être que dans 10 ans, ça va être totalement la norme. Je pense que ça pourrait être ça. Après, pour le community management, peut-être que ça va être un nouveau type de community management avec de nouveaux réseaux, puisqu'aujourd'hui, on entend un réseau social qui sort tous les jours, Blue Sky, Biril aujourd'hui. Donc, je dirais peut-être des nouveaux réseaux, peut-être dans le cadre du community management. Voilà.
Ok, merci Alexandra. Merci pour cette interview. J'ai trouvé ce podcast, très intéressant et ça nous a plus appris justement sur ces différents métiers de la communication qui sont déjà énormes, qui sont sur différents secteurs. On l'a vu et à différents niveaux du territoire. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi.
Merci.
J'espère que ça a aussi également plu à nos auditeurs. Et si d'ailleurs ils veulent bien prendre du temps pour nous donner leurs avis, donner un commentaire sur ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que d'autres interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus !